Récemment, nous nous sommes rendus compte que nous avions de gros problèmes de dépendance. Nous avons perdu des amis, engraissé démesurément, essayé toutes les saveurs de chips inimaginables et déformé notre posture à jamais. Et oui, nous souffrons probablement d'une addiction maladive au petit écran. Pour contrer notre addiction, notre psychologue nous recommande de ne pas regarder la télé pendant au moins une heure par semaine.
Donc on enregistre votre guide télévisuel! Les Exaltés du Divan, épisode...
24!
24! Oh wow, épisode 24!
Oui!
Je suis en compagnie d'Erika.
Je suis Erika, c'est Simon.
Bonjour tout le monde. Oui, alors on est un petit peu rouillé, ça fait un certain moment déjà qu'on n'a pas fait d'épisode.
Donc, on est encore dans le spécial Fantasia.
Oui, absolument. Aujourd'hui, ça va être un spécial Fantasia mur à mur, ouais. Donc début à la fin. Ça risque d'être une formule un peu différente. Là, on veut essayer des choses. On ne sait pas exactement où on se situe dans le...
Exact. On est un peu dans une période de réflexion sur la durée. Peut-être qu'on va faire des épisodes plus longs, mais ou deux semaines, ou on ne sait pas trop encore.
Où se situe-t-on dans le monde du podcast? On le sait pas. Il y a pas énormément de gens qui nous écoutent non plus. Hein. Ceux qui sont là à nous écouter, on vous remercie beaucoup.
Vous êtes nos meilleurs amis.
Ouais, nos meilleurs amis. On n'en a pas d'autres. Mais c'est ça. Donc, on est en réflexion un peu là-dessus. Mais on voulait quand même au moins finaliser là, le spécial Fantasia, parler de tous les films qu'on a vus là-bas. Il en reste quand même quelques-uns qu'on n'avait pas parlé. Et je pense qu'on va y aller sans plus tarder, là, ouais. Parce qu'on en a beaucoup à parler.
Donc, ça va être un épisode plus long aujourd'hui. Je commence avec Blew My Mind, un film suisse-allemand. La thématique, c'est vraiment sur l'adolescence, donc les changements du corps, la remise en question des parents et de leur rôle, le rejet de leurs valeurs. C'est l'acceptation des pères, les premières expériences, tout ça.
La puberty!
Ouais, entre autres, mais c'est surtout... Ouais, aussi, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, elle a ses menstruations. Et en fait, c'est mélangé avec une sirène, tu sais. On le voit dans la bande-annonce, là. Et,
une sirène?
Ouais, il y a quelque chose avec les sirènes, mais...
Genre de police, là?
Non, une sirène aquatique.
Aquatique,
ouais,
OK.
Ouais. OK. Puis en fait, la fille, c'est comme si tous ces thèmes-là sont véhiculés dans le fait qu'elle se transforme en sirène graduellement. Mais tu sais, c'est pas une sirène genre Ariel où tout est beau, là. Tu sais, c'est comme, ça fait peur un peu. C'est un peu glauque, là.
Mais tu sais, une sirène, comme dans la vraie vie, on s'entend, ouais. Tu sais, c'est un poisson femme, ça fait peur.
Là, ouais, c'est ça. Puis tu sais, sa queue, c'est pas genre des belles écailles scintillantes, là. Tu sais,
c'est sale.
C'est des couleurs, tu sais, terrifiantes un peu. C'est sombre, puis en tout cas. Et en fait, pour vrai, étonnamment, j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Puis en fait, j'étais contente aussi de voir un film, tu sais, d'une jeunesse plus actuelle, parce que, tu sais, on est plus des ados depuis au moins 10 ans, depuis au moins une dizaine d'années, donc c'était le fun aussi de voir un peu, tu sais, c'est quoi un peu les repères culturels des jeunes, fait que c'était intéressant, puis c'était vraiment pas quétaine, en fait, tu sais, c'était pas... Parce que là, c'est sûr, dit de même, genre, une ado qui se transforme en sirène, ça a l'air vraiment bizarre, mais non, c'était...
Il y a déjà des films qui ont été faits là-dessus, non? Des films de Disney, vous avez parlé de même?
Mais tu parles d'Ariel, genre?
Non, il y avait un film en vrai, là. Je me rappelle plus c'était quoi le nom. Blue Ocean, ou en tout cas, je sais pas trop.
Ah ouais, non, mais c'est vraiment pas quétaine.
Non, c'est un
pas...
truc quand même dramatique, là. C'est
ouais,
sombre.
Ouais, c'est assez sombre. Fait que, puis tu sais, c'est aussi comme, tu sais, le rôle de tes amis, puis toutes ces choses-là, donc c'est ça. C'est bien, j'ai donné un 3 sur 5.
3 sur 5?
Ouais.
Ah, ok, c'est la note de passage.
Ben, 3.5. Mais il n'y a pas de points, c'est ça?
Non, dans la cotation de Fantasia, il n'y en a pas, mais
okay, ben,
ouais, 3.5. Ok, cool. Ça avait l'air bien, en fait. Je ne l'ai pas vu, bien entendu. Tu étais allé le voir seul. Mais,
non, j'étais allé voir avec une amie.
Oui, oui, pas seul, mais sans moi, mettons. Là.
Ok, j'avoue, j'ai d'autres amis aussi. Mais vous êtes mes préférés.
On vous aime.
On vous aime.
Donc ça, c'était... comment ça s'appelle?
Blew My Mind, un film de la Suisse allemande.
OK, cool.
Et ensuite, j'enchaîne avec Room Laundering. Ça, c'est un film japonais qui est un peu... humoristique, on dirait. C'est dramatique, humoristique. C'est une famille atypique, en fait. C'est une fille un peu... archi-solitaire, en fait. Pas un peu. Elle est reclue.
Une otaku?
Non, mais c'est plus une fille qui visiblement est isolé un peu du reste du monde. Et elle vit avec son oncle, qui est un genre de pseudo-yakuza. C'est comme un petit crosseur, mais qui a des bonnes valeurs, en tout cas.
Fait que, t'sais, comme tous les yakuza, non?
Non. Les yakuza dans les films, d'habitude, sont full badass. Lui, t'sais, c'est genre, il fait des faux papiers ou des affaires de même. Okay. C'est comme pas un... C'est un criminel, mais...
Ouais, OK.
Un criminel, t'sais, de faux papiers. Puis en fait, lui, sa job, c'est... aussi de faire du blanchiment d'appartements parce que, ben, tu sais, comme ici, en fait, au Québec, on a la loi que quand il y a une mort violente, il faut le spécifier quand tu loues, quand tu achètes une propriété. Mais c'est un peu la même chose. Puis en fait, les gens au Japon sont vraiment superstitieux. Donc,
les fantômes.
Ils croient vraiment aux fantômes, c'est fou. Là, même mon prof de japonais, là, des fois, il nous raconte des trucs. Puis tu sais, il croit tellement. Là. En fait, tous les Japonais que j'ai côtoyés, ils ont toutes une ou deux histoires de fantômes à me raconter qui ont vraiment vécu, tu sais. En tout cas, fait qu'ils croient aux fantômes. Et en fait, elle voit les fantômes, puis c'est comme si elle les blanchit un peu pour qu'ils partent de l'appartement, pour qu'ils soient...
Elle les exorcise.
Ouais, d'une certaine façon, mais plutôt elle les aide à cheminer, à faire la paix.
OK.
Fait que c'est ça. Et,
comme dans Bleach.
Ouais, non, dans Bleach, les butes.
Ah, OK.
Ouais,
okay.
Non. Fait que c'est quand même cute, tu sais, c'est un bon truc aussi, elle apprend un peu plus sur sa famille, parce que, tu sais, on
se... Mais elle les voit-tu vraiment, les fantômes?
Ouais,
OK,
ouais.
Il y a vraiment des fantômes.
Sauf qu'elle a commencé à les voir à 18 ans, quand sa grand-mère est morte, en fait,
okay.
Ou à ses funérailles, tu sais, puis tu sais, avant ça, elle les voyait pas. Puis en fait, il y a comme sa mère, elle voyait des fantômes, puis il y a comme toute une intrigue un peu là-dessus. Fait que c'est quand même intéressant parce qu'on voit un peu, on sait vraiment pas trop pourquoi elle est avec son oncle au début, puis
tu sais. On l'apprend.
Ouais, au fur et à mesure. Puis c'était cute. Fait que.
Room Laundering.
Ouais.
Puis c'est quoi ta note?
3.5.
OK. Donc on se maintient.
Ouais. Fait que vas-y donc, je fais-tu mon autre ici? Un autre, le tien, OK. Ouais, OK.
Bon, je vais commencer par Fleuve Noir, en fait.
Ouais, okay.
Fleuve Noir, donc, c'est un film français qui a été écrit par réalisé et écrit par Eric Zonka. C'est pas un réalisateur que je connaissais vraiment. Puis en fait, il a fait comme 4 films depuis 1998. Donc, il a fait 4 films en 20 ans. Mais tous ces films ont eu des nominations quand même intéressantes. L'Ours d'Or à Cannes. Donc, il y a le César aussi. Donc, il y a eu plusieurs nominations. C'est un film français, mettons de détective, là, un film policier, là, très sombre, très noir. Et en fait, c'est vraiment un film sombre. Là. Okay. T'sais, donc, les thèmes qui sont traités là-dedans sont très sombres. Ça met en vedette Vincent Cassel.
Ton Vincent Cassel!
Ouais, qui est un des acteurs français là, que j'apprécie énormément. Puis, il joue un rôle qu'on n'est vraiment pas habitué de le voir jouer.
Okay.
Absolument, il joue... Souvent, tu sais, le beau mec en contrôle, tu sais, qui est, oui, peut-être un peu fucké, mais qui est surtout, tu sais, en contrôle des choses, puis qui est au sommet de la chaîne alimentaire, si on veut. Là-dedans, il joue un commandant de police, un genre de détective, mais qui est extrêmement alcoolique, qui est pas respecté de ses collègues, qui est vraiment fucké, en fait.
Un raté.
Mais, tu sais, il est quand même commandant de police, fait que c'est pas nécessairement un raté, mais il est en train de rater sa vie, là, tu sais.
Okay.
Et quand, l'histoire, dans le fond, c'est qu'il y a un adolescent qui disparaît. Puis on sait pas trop il est où, justement, il est disparu. Donc la police commence à enquêter là-dessus. Et lui, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, tout le long du film, mener une espèce d'enquête parallèle à la vraie enquête. Parce que lui, il a comme son intuition de policier qui lui dit « OK, non, telle personne est louche ». Donc il va comme mener sa propre enquête en parallèle de la vraie enquête. Il soupçonne le professeur de français privé, dans le fond, du jeune garçon qui est disparu. Puis c'est un gars vraiment fucké, le professeur de français. C'est un espèce d'excentrique qui capote sur la poésie, puis sur l'édification de la personne. Comme il est un vrai intellectuel, là, mais un gars raté, un écrivain raté qui est devenu prof.
Mais t'sais. Les gens qui aiment la poésie, souvent, ils sont un peu spéciaux.
Oui. donc, c'est ça, dans le fond, il va enquêter sur cette histoire-là, puis sans trop vous dévoiler un peu comment ça se termine, sans trop vous dire exactement ce qui va se passer. Un peu, un des attraits de ce film-là, c'est que réellement, il est dans le champ tout le long. Puis c'est comme, c'est le personnage principal, c'est le héros du film, on suit son enquête, mais son enquête, elle est... basé sur des motivations qui sont complètement frauduleuses. Là.
Des motifs.
Des motifs, mais tu sais, un instinct qui n'a pas rapport. Puis comme, tu sais, le gars, il suit sa voix, mais sa voix, c'est pas la bonne. Et ça, c'est rare qu'on va voir ça dans un film de policier. Tu sais, souvent, le policier, c'est celui, tu sais, qui, oui, malgré, ouais, même s'il y a des problèmes, son instinct est le bon, puis comme, tu sais, oui, ok, il est peut-être un peu alcoolique, puis tout ça, mais son instinct est le bon, puis
ah,
il
ouais,
va.
C'est intéressant, c'est vrai.
Et là, tu sais, il va, c'est comme le gars, il est juste, tu sais, il pourrait être envoyé après ce film-là.
Ah ouais, ok.
C'est à ce point-là. Et l'autre chose de ce film-là qui est assez intéressante, c'est que les thèmes qui sont amenés, tu sais, on parle d'inceste, de pédophilie, de mort violente, tu sais, comme c'est des sujets
aussi,
de viol, ouais, c'est de viol de policiers, tu sais, comme c'est des sujets lourds, tu sais, puis c'est quand tu sors de là, t'es pas nécessairement heureux, mais c'est vraiment un film de police, tu sais, parce que c'est sombre, c'est lourd, et le fait que c'est français aussi, c'est un peu rafraîchissant, parce que ces films-là, souvent, ils vont être faits à l'américaine, mais dans ce cas-ci, on sent vraiment que c'est un film français.
Justement, je m'en ai posé la question, est-ce qu'on ressent comme l'esthétique typique française un peu? Ou,
Non, on se sent même pas en France, je te dirais. Mm-hmm. On se sent vraiment nulle part, dans le sens que ça pourrait se passer n'importe où. Mm-hmm. Dans n'importe quelle grande ville du monde, pratiquement, ça pourrait se passer là. Très peu de références à l'extérieur. Donc, okay. C'est vraiment basé sur les personnages. Super intéressant, en fait, j'étais vraiment pas déçu d'aller le voir. Je pense qu'il va être au cinéma d'ailleurs, dans les cinémas là,
ouais,
à
ça,
Montréal.
Ouais, c'est un gros film en fait, fait que c'est sûr qu'on va pouvoir le trouver facilement après.
Ouais, c'est ça, exact. C'est sûr que c'est pas nécessairement un film facile. La seule chose que je reproche à ça, à un certain point, c'est la bande-annonce.
Ouais.
La bande-annonce nous faisait croire que c'était... Une des hypothèses qu'il explore pendant le film, c'est le fait qu'il aurait rejoint le djihad, dans le fond, puis il serait parti comme combattre là, dans d'autres pays, là, t'sais, au Moyen-Orient. Mais la bande-annonce est comme basée là-dessus, mais dans le film, c'est à peu près 5 minutes.
Ah.
Fait que t'sais, j'allais pas le voir pour ça, mais je pense qu'il y aurait eu plus de monde qui serait allé le voir s'il avait présenté ça vraiment plus réaliste. Pas que les gens s'intéressent pas au djihad tout ça, mais ça présentait vraiment un autre film que qu'est-ce que j'ai vu.
Mais peut-être en fait, vu qu'en France c'est tellement
un sujet
plus
intense,
peut-être qu'il voulait attirer des gens en fait en parlant de ça, t'sais.
Peut-être, c'est possible aussi, c'était une des hypothèses
en
que
tout
j'avais.
En si vous écoutez la bande-annonce, ne vous fiez pas à cet élément.
Non, mais Vincent Cassel est excellent dans ce film-là, en fait. Il y a un personnage qui tient tout long, c'est un personnage vraiment bizarre. Il a les épaules vraiment débalancées, il se tient tout mou, il a un manteau trop grand, il est ultra alcoolique, il est pas propre, tu sais. Donc vraiment, chapeau sur ça. Pour moi, c'est un bon 4.
Ah ouais,
ouais,
super.
Exact.
En fait, je suis allée voir aussi Le Nid.
Ouh, je regrette tellement de pas être allée le voir. Pourquoi je suis pas allée le voir?
Mais tu vas pouvoir te reprendre.
Oh.
Parce que, en fait, c'était, à Fantasia, c'était la première mondiale, mais tu sais, c'est un film québécois, là, mais c'était la première mondiale. Et il sort en salle le 31 août, mais pas dans les cinémas. Il va juste sortir au cinéma Beaubien, au cinéma du Quartier Latin, cinéma Le Clap, cinéma Le Tapis Rouge, cinéma Le Capitole à Drummondville. Donc, à partir du 31 août, il va sortir. Vous allez pouvoir... C'est pour ça que je ne vais pas vraiment faire de divulgateur sur celui-là. C'est un film vraiment intéressant, en fait, parce qu'il y a deux acteurs seulement. C'est Pierre-Luc Briand et Isabelle Blais.
Elle est tellement bonne!
Ouais. Puis, en fait, c'est un film qui est en huis clos, dans un décor vraiment lugubre, et c'est le premier long métrage de David Paradis qui avait signé la web-série Les Roux. J'en avais entendu parler, mais je l'ai pas écouté, en tout cas. Fait que c'est son premier vrai film. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'il y avait une séance de questions à la fin. Et évidemment, les trois sont restés pour nous répondre. Et, tu sais, le décor, vu qu'il y a juste deux personnages, tu sais, le décor, il est vraiment vivant.
C'est un personnage.
C'est un personnage, c'est ça, exact. Et il disait que, en fait, ça a été tourné dans le sous-sol de l'église Saint-James, que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont juste comme parce que c'est pendant la guerre, c'est là que les soldats revenaient faire la fête un peu, tu sais, il y a des allées de bowling, des affaires, tout ça. Et après la Deuxième Guerre, en fait, ça a juste été coupé dans le temps. ils ont commencé à utiliser ça comme salle d'entreposage.
Fait qu'il n'y a rien qui a changé.
Non, c'est quoi. Ça, mais tu sais, ils n'ont jamais comme ramassé des quilles sur le truc. Ils ont juste commencé à mettre des boîtes. Fait qu'ils n'ont jamais touché au décor.
Fait que c'est tel que c'était à ce moment-là.
Exact, et mais ça a eu zéro entretien aussi. Donc, on s'imagine, il y a des trous partout, il y a eu des fuites, il y a des rats, il y a de la poussière. Ils ont dit qu'ils ont fait tellement de ménage pour filmer ce truc-là. Ouais, mais ils disent que c'était quand même vraiment intéressant parce que c'était super lugubre comme truc, super mal entretenu, un vieux sol d'église, mais tu sais, il y avait comme plein de belles choses, mais en même temps, en tout cas, c'était parfait, je pense, pour le film. Et en fait, l'histoire, c'est Pierre-Luc et Isabelle, qui sont un vrai couple dans la vraie vie, mais qui sont un couple dans le film aussi.
OK, c'est un vrai couple dans la vraie vie.
Ouais. Et ils ont leur nom aussi, tu sais, dans le film.
Ils ont leur vrai nom.
Ouais, ils s'appellent Isabelle et Pierre-Luc, là.
Oh, c'est quand même fucké.
Et en fait, ça raconte l'histoire d'un comédien dans la quarantaine, puis il se fait comme piéger un peu par sa blonde, sa femme, qui organise une expérience où parce qu'il avait toujours dit qu'il allait faire un film ensemble. Okay. Et donc, elle l'enferme un peu pendant 7 jours, dans cet endroit-là. Au début, c'était supposé être un chalet. Elle dit, ah, tu sais, je sais que c'est pas le chalet que tu voulais, là. C'est ça, l'église, c'est vraiment un crado, mais c'est pas grave. Fait que là, dans le fond, le concept, c'est que ils vont comme faire une genre de thérapie de couple à travers cette expérience-là. Et donc, l'entente, c'est qu'elle envoie des vérités à toutes les fois qu'elle envoie des vérités, et lui, il doit envoyer un montage de film. Et donc, ça s'échange comme ça, tu sais. Et si, mettons, elle le fait pas, il peut avoir des conséquences ou tout ça. Puis, tu sais, les vérités sont pas toujours non plus vraiment douces et... tu sais, en tout cas... Et en fait, c'était, je donne vraiment 5/5 à ce film-là. Les acteurs sont excellents. Le réalisateur, il disait qu'ils ont eu une, comment on dit ça, une première leçon?
Une?
Tu sais, les gens qui prennent le son.
Ouais, les preneurs de son, ouais.
OK. Une preneur de son, en fait, qui était vraiment motivée, là. Il paraît qu'il y avait des micros, là, à toutes les 5 pouces, puis tu sais, ça en devenait quasiment problématique, là.
OK.
Fait que tu sens, la salle, le décor est vraiment vivant, là. Puis, en tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. Je vous encourage à aller le voir. Puis, en fait, il y a comme une allégorie du pompier qui est comme un peu dur à comprendre, qui nous a expliqué à la fin, je vais pas vous l'expliquer, mais si vous allez voir le film et que vous avez pas compris trop, en fait, c'est quoi le symbolisme du pompier dans le film, écrivez sur notre page Facebook, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que le réalisateur et les acteurs nous ont expliqué. Donc, c'était vraiment, vraiment bon, puis c'est vraiment psychologique, puis drôle aussi à certains moments. Puis je trouve que ça va vraiment en profondeur. Et j'ai adoré.
Ah ouais, je regrette vraiment de pas être allé. En fait, je sais même pas pourquoi je suis pas allé.
Je sais pas.
Non, je sais pas. Mais je pense qu'on arrivait pile à 20 billets. Puis
ouais,
en tout cas, malheureusement.
Donc, tu vas pouvoir te reprendre. Oui. 31 août, Cinéma Beaubien, Quartier Latin, le Clap, le Tapis Rouge et le Capitole à Drummond. Donc,
Le Nid. Magnifique. Donc, ça avait l'air vraiment cool, en fait. J'irai peut-être avec le dernier film solo que j'ai vu. Je pense que tous les autres films, c'est des films qu'on a vus ensemble. C'est le film Bodied. Donc, comme Bodied. Body, mais Eid. C'est en fait une espèce de film comédie-drame réalisé par Joseph Kahn. Joseph Kahn, je le connaissais pas en fait avant d'aller voir le film. C'est un Sud-Coréen, en fait, qui est allé aux États-Unis pour faire du cinéma, mais finalement, il s'est retrouvé à réaliser des vidéoclips de musique. Mais tu sais, il en a réalisé pour Jennifer Lopez, Lady Gaga, Taylor Swift, 50 Cent, Maroon 5, Imagine Dragon, Katy Perry, Eminem, puis vraiment, tu sais, beaucoup, U2, en fait, énormément de clips ont été réalisés par ce gars-là. Donc, il y a une esthétique déjà qui est assez différente de qu'est-ce qu'on peut voir dans les films. Et c'est un film qui a été produit exclusivement par M&M. Fait qu'on peut dire réellement que c'est un film indépendant.
Okay.
Tu sais, il n'y avait pas une boîte de production derrière, il n'y avait pas de producteur de grosses compagnies qui était là pour mettre son nez là-dedans. Donc, c'était vraiment un film qui a le champ libre pour beaucoup de choses. Et c'est un film, de rap battle, de bataille de rap. Là, plusieurs personnes disaient « Ah ouais, c'est un genre de remake de 8 Miles ». On est vraiment loin de là, en fait. Probablement, 8 Miles, c'est un espèce de drame autobiographique. Ça, c'est de la fiction et il y a aussi beaucoup de comédie là-dedans. Donc, il y a pas mal de moments qui sont drôles et des moments qui sont un peu plus dramatiques et sérieux. L'histoire, en gros, c'est Un gars qui a peut-être, je sais pas, 25 ans, il s'appelle Adam, pis c'est un espèce de nerd. C'est pas de pur nerd, là, mais tu sais, un genre de gars un peu nerd.
Un peu coincé.
Ouais, c'est un étudiant à l'université en poésie. OK? Puis lui, dans le fond, il capote sur les batailles de rap parce qu'il se dit, dans le fond, ça, c'est la poésie de notre époque. Et il va dans des places où il y a des batailles de rap et tout ça. Et finalement, il se fait comme prendre sous son aile par un des gars,
Des
des battle
champions.
rappers de la place. Puis en fait, il commence à faire des batailles de rap. Et il joint vraiment ce monde-là, qui est un monde complètement fucké, en fait. T'sais, qui est pas, c'est pas le monde des rappeurs, t'sais, c'est le monde des batailles de rap. T'sais, c'est pas
Ben
exact.
c'est comme du slam.
Ben, il n'y a pas de musique, hein, et
Ouais,
c'est
c'est
comme
ça.
du slam. Puis souvent, ça va être vraiment basé sur insulter l'autre personne. On peut dire que c'est pas très édifiant, mais bon, c'est pas à nous de juger c'est quoi ou non, tu sais, c'est ça, c'est ça. Et justement, le fait que ce soit basé beaucoup sur l'insulte de l'autre personne, c'est un film qui, pratiquement tout le long, le sujet principal, c'est qu'est-ce que t'as le droit de dire et qu'est-ce que t'as pas le droit de dire. Et c'est un film qui est parfaitement adapté à l'époque dans laquelle on vit. À l'époque de est-ce que c'est politically correct? Est-ce que c'est de la liberté d'expression? Est-ce que c'est approprié de le dire? Est-ce qu'on doit le dire parce que c'est pas approprié? Donc ça joue beaucoup
T'as-tu
sur ces codes-là.
un exemple, par exemple,
Ben non, mais tu sais, mettons, il va faire une bataille contre un Asiatique. Ben tu sais, est-ce que c'est correct dans une bataille de rap de sortir tous les clichés sur les Asiatiques? T'sais, mais là, c'est ça, mais après, il y a ça pour les femmes, il y a ça pour les Arabes, il y a ça pour donc plein de sujets différents. T'sais, en fait, vraiment, le sujet principal du film, c'est, et là, ça va être un peu délicat parce que je vais devoir le dire en ondes, t'sais.
Non, dis-le pas.
Non, mais c'est pas un
Ben.
spoiler, là.
Ah,
Je vais
ok.
devoir dire un mot
Ah, ok.
qui est controversé,
Oui,
t'sais.
c'est quoi le
Mais c'est,
sujet?
est-ce que. À quel moment c'est correct de dire nigger?
Ok.
T'sais, puis là, est-ce que c'est correct de le dire pour référencer le mot? Est-ce que c'est correct de le dire entre les noirs entre eux? Est-ce que c'est correct de le dire quand t'es un blanc? T'sais? Et c'est comme ça, en fait, que ça commence le film réellement. Le gars,
Ok.
il fait sa thèse d'université sur l'utilisation de ce mot-là.
Ok. En fait, c'est drôle, ça me fait penser à un truc parce qu'on a une de nos amies qui travaille à l'école secondaire Henri Bourassa. Et en fait, comme les jeunes, je pense que c'est secondaire 2 ou 3, ils disaient Hey, madame, madame, vous, votre nègre, comment il s'appelle? Puis là, elle était super mal à l'aise, tu sais. Elle dit Non, mais tu sais, il faut pas dire ce mot-là. Elle dit Puis là, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de créoles, tu sais, à Henri Bourassa. Puis en fait, ils ont expliqué que nègre, c'est vraiment pas correct de dire ça. Mais nègre, ça veut juste dire ton mec. Fait que, tu sais, surtout nous, mettons, on fait extrêmement beaucoup d'escamotage dans notre langue, la façon qu'on s'exprime. Fait que, tu sais, elle était super mal à l'aise. Puis, tu sais, finalement, c'est comme non, eux, ils s'appellent, tu sais, tout nègre, mais pas nègre. Tu sais, là, t'as une
Ouais, il y a une
différence. Ouais, c'est
différence.
ça. Fait que, tu sais, ça va des fois dans des détails.
Non, mais en fait, j'ai vraiment adoré ce film-là, le Bodied. Vraiment intéressant. Deux critiques. Il y avait quelques petites jokes
Américaine.
un peu trop américaines, si on veut. Il y a un personnage, dans le fond, là-dedans, qui est la blonde du gars principal, donc Adam. Puis elle, tu sais, lui, c'est un genre d'universitaire un peu intellectuel. Fait qu'elle, elle vient exactement du même background, t'sais, puis il l'amène dans des rap battles. Puis là, elle comprend pas pourquoi est-ce que, genre, les femmes se font dénigrer là-dedans. Pourquoi est-ce qu'ils se traitent de tapette à tour de bras, t'sais. Puis comme elle est comme, ben là,
Ouais.
c'est pas édifiant, là. Je peux même pas admirer la poésie si qu'est-ce qu'ils disent, c'est de la merde, t'sais. Fait que ça, c'est un personnage quand même intéressant, quelquefois un peu gossant dans le film, malheureusement.
Mais c'est ça, c'est qu'aussi, tu sais, il y a eu tellement de mouvements où les gens s'approprient l'insulte à un certain point. Fait que, tu sais, c'est une façon d'outrepasser le fait que c'est une insulte, c'est de se l'approprier, puis de se l'approprier et ensuite de l'utiliser comme une marque de fierté. Fait que, tu sais, c'est sûr que la ligne est mince, tu sais, de se dire, ah ouais, c'est pas édité, pourquoi est-ce que les femmes se dénigrent, mais dans le fond, en se dénigrant, est-ce qu'ils. En se traitant, tu sais, justement, des stéréotypes féminins, est-ce que tu te l'appropries ou tu l'outrepasses ou, tu
Ou
sais?
tu le favo ou tu
Ouais,
l'entretiens, tu
c'est
sais. Ouais, ben ça c'est, je trouvais pour un film comme ça que tu t'attends pas nécessairement à ce que le propos soit vraiment intéressant, ben je suis resté surpris. parce qu'il y avait plein de pistes de réflexion sur notre époque qui étaient vraiment intéressantes puis vraiment bien faites. Autre chose peut-être que j'ai regretté un peu, c'est qu'il n'y avait pas de sous-titres. Et ben c'est en anglais, mais au final c'est que c'est du rap, là, des rap battles, fait que ça va très vite. Peut-être que j'ai manqué à peu près le tiers, peut-être même plus que le tiers des rap battles, parce qu'en plus il y a toute une espèce
Mais du jargon,
de
là.
jargon qui vient avec ça que je connais pas. Puis au début, justement, quand ça commence, il explique, OK, quand il dit telle chose, ça fait référence à telle chose. Puis tu vois que c'est comme, c'est ultra postmoderne, c'est ultra référentiel, puis il y a vraiment beaucoup de culture à l'intérieur de ça, même si certaines personnes vont juger que c'est pas de la vraie culture, ça reste au final que c'est quelque chose qui existe. Et en fait, ouais, super bon, gros 4.5 pour moi, et c'est sûr que c'est le genre de film que je vais regarder de nouveau quand il va sortir. D'ailleurs, c'est un film qui va être diffusé à la base sur YouTube Red. Donc, c'est produit par M&M, mais c'est distribué par YouTube Red, c'est le diffuseur en fait. Pas le distributeur, le diffuseur. Donc, ben, bien
Ah,
cool. En fait, je vous
super.
encourage fortement. Tous ceux qui aiment le rap battle, c'est vraiment un film excellent. Puis c'est
Ou
toutes
la
des.
poésie.
Ou la poésie. Puis c'est toutes des vraies personnes de rap battle qui sont
OK.
là-dedans. En fait, c'est un film américain, sauf qu'en réalité, c'est presque un film canadien parce que tout se passe à Toronto.
OK.
Et c'est toutes des rappeurs de Toronto, pratiquement, là.
Est-ce que c'est un peu un documentaire à un certain point?
Non,
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 OK.
y a pas cette prétention-là du tout. Ça
OK.
ressemble presque plus à des vidéoclips avec des scènes entre les clips de batailles de rap, tu sais.
Ah, c'est
Ouais.
bien, cool.
Bon, ben on va y aller avec les
Et
films qu'on a vus ensemble, parce qu'il y en a
ouais.
quand même quelques-uns.
En fait, on a vu notre premier film russe ensemble.
Ensemble, moi j'en avais déjà vu quelques-uns, mais...
Ben, notre premier à Fantasia, en tout
À
cas.
Fantasia, exactement, notre premier film russe à Fantasia.
Ouais. Le titre, c'est A Rough Draft. En fait, c'est inspiré d'un duo, de
Une
une
duologie.
duologie. D'un roman, science-fiction, genre, en tout cas,
Ouais, science-fiction
éclaté,
fantastique,
là,
là.
ouais. C'est vraiment éclaté, en fait, comme film, là. Je sais pas comment toi t'as trouvé ça, mais tu sais, en fait, c'est. Je sais pas comment
Ben,
l'expliquer.
en gros, c'est un concepteur de jeux vidéo, tu sais, vraiment acclamé, qui se retrouve du jour au
C'était
lendemain.
pas un gars qui fait des films?
Mais non, ils font The Dark Tower, là, pis c'est genre le jeu vidéo
Ah, je
révolutionnaire, pis
pensais que
ça.
c'était comme le film, le Dark Tower.
Ah non, ben en fait, la référence, c'est que
Ah.
le gars, c'est un concepteur de jeux vidéo, pis c'est pour ça que plus tard, il est aussi bon dans la réalité. Parce
Ah.
que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il se retrouve comme effacé
Ah
de la
non, attends, faut
réalité.
pas dire ça tout de suite.
Non?
Non.
Qu'est-ce qu'il faut dire avant?
Ben, ouais, c'est vrai, dans le fond,
Non, mais
c'est correct.
je sais pas, là, tu sais, c'est un film quand même bizarre, mais.
Ouais, ça commence comme ça dans le fond. Il n'existe plus dans
Aucune trace officielle du gouvernement,
aucun certificat
plus personne se
ou.
rappelle de lui, ses parents l'oublient, ses meilleurs amis l'oublient, les
Il
gens
a
à sa
été
job le reconnaissent plus. En fait,
radié.
il est réellement effacé de la réalité. Et dans le fond, il est effacé de la réalité par une espèce d'organisation, justement, t'sais, style un peu Illuminati, qui contrôle les univers parallèles, puis le monde des si telle chose était arrivée.
Ouais.
En fait, les univers
Un
parallèles.
genre de KGB postmoderne.
Ouais, mais genre de. Ouais, c'est ça, exact. Donc, un genre de KGB du futur. Et lui, il se retrouve, dans le fond, assigné à un poste dans
Un poste de douane.
un poste de douane, c'est ça, où, dans le fond, il ouvre des portes vers des nouvelles dimensions. Et en fait, c'est toujours des portes qui vont ouvrir vers un Moscou fictif.
Ouais.
Donc, le Moscou de si, mettons, l'humain avait pas découvert le pétrole.
Ouais.
Tu sais, ou un Moscou de.
Encore sous l'époque tsariste.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Donc, c'est vraiment des concepts de réalité alternative.
Ouais.
Et ce thème-là a de l'air récurrent. Je pense que le livre est peut-être mieux que le film, même si on l'a pas lu,
Mais
là.
c'est sûr qu'en fait, t'sais, ça, ils sautent tellement d'un monde à l'autre, ça va vraiment vite. Et t'sais, il aurait peut-être pu faire. Ben, t'sais, là, en fait, ça finit à suivre parce que je pense qu'il y a un film par livre, mais peut-être qu'il aurait pu faire deux films en tout cas avec le premier livre. Clairement, il y a beaucoup de matériel, là.
En fait, si c'était aux États-Unis, il aurait sûrement fait une trilogie,
Ouais,
là.
c'est
C'est le
sûr.
genre de truc parce que ça va vite. Puis le gars, il se retrouve là. Dans le fond, il a sa job de douanier, mais science-fiction un peu, parce qu'il ouvre des portes vers d'autres dimensions. Puis il y a plein de gens qui ont des pouvoirs là-dedans. Il y a plein de
Ouais.
gens qui ont d'autres choses. Et c'est vraiment bizarre, hein, parce que là, je l'explique, tu sais, je sais même pas vraiment
Non,
comment
c'est ça.
l'expliquer plus que ça, parce que c'est de la c'est le genre de science-fiction qu'on n'a jamais vraiment vu, puis au final, il se passe, tu sais, on dit qu'il pourrait faire une trilogie, mais en réalité, il se passe très peu de choses dans le film, là. Le gars,
Ouais.
il est en amour avec une fille qui se rappelle plus ou moins de lui.
Ben parce que tout le monde l'a
Ouais,
oublié,
parce
mais
que tout le monde l'a
elle est comme une
oublié.
intuition un peu de le connaître,
Puis
mais.
dans le fond, ben là, lui, il se retrouve un peu à se battre contre le système qui l'a créé. Parce que, tu sais, c'est une affaire de la grosse compagnie, ben, ils veulent, tu sais, un peu, aller s'emparer des Moscou qui sont plus roses, si on veut, là, qui ont comme mieux réussi. Fait que eux, c'est comme des espèces d'agents qui vont dans les réalités parallèles.
Ah ouais, moi j'avais compris en fait qu'il voulait tester des choses dans les univers parallèles afin que le Moscou dans lequel il vivait, il allait être exempt de toute erreur.
Oui, ben en fait, eux, c'est ça qu'ils disent. Ils disent
Oui,
qu'ils
mais ça c'est
veulent.
leur vision à eux,
Ils
genre.
disent qu'ils veulent aller voir des Moscou qui seraient un peu dans le futur pour ne pas faire les mêmes erreurs. Sauf qu'est-ce qu'on apprend en
Non, bon,
réalité, c'est
mais.
qu'ils veulent. Le vrai Moscou qu'ils veulent aller dedans, c'est celui qui est dans le passé, tu sais.
Ouais, sauf qu'ils savent pas que c'est dans le passé.
Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, là, comme truc. Mais bon, en gros, c'était correct. Il y
Ben,
avait.
en fait, l'histoire. Moi, tu sais, j'aimerais ça lire le livre, en fait, parce que j'ai essayé de le trouver, puis malheureusement, il est pas traduit en français. Peut-être qu'il est en anglais, je sais pas. Mais clairement, ça a l'air super éclaté, super intéressant. Puis le problème, en fait, c'est comme la gestion un peu de qu'est-ce qui est quétaine. C'est les codes, là, qui
Ah, ben les Russes,
sont.
disons, qui sont pas nécessairement encore au sommet pour faire. Parce que ça, c'est vraiment un film. À part les Américains, il n'y a pas grand monde qui font des films comme ça. Donc, c'est calqué un peu sur le modèle américain, mais avec justement un côté quétaine qu'on n'est vraiment pas habitué de voir. Tu sais, la scène d'amour sur la plage où il se roule dans le sable avec la musique romantique, mais comme elle est là dans ce film-là, puis elle est vraiment quétaine, tu
Ouais.
sais. Puis je sais pas à quel point dans le livre aussi, mais les personnages sont comme un peu cons. T'sais,
Ouais.
surtout le gars principal, t'sais, c'est vraiment un genre d'abruti, mais
Ouais.
tu sais, c'est l'élu, c'est le
Ouais.
Néo de la Matrice,
Ouais.
mais en un peu abruti.
Ouais.
Donc on
Il est un peu
il,
simplet.
ouais donc il manque vraiment un petit peu de cohésion là-dedans, puis de savoir c'est quoi le ton du film.
Ouais.
T'sais, il manque un petit peu de ça, puis des fois c'est comme un peu sexuel, des fois c'est un peu violent, mais jamais vraiment assumé à 100%.
Ouais, non, j'avoue. Mais c'est en fait, si je diminue ma note, c'est vraiment pour le côté quétaine de la chose. Parce que par bout, c'était un peu même embarrassant à regarder. Mais par exemple, il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé du film et que, tu sais, ben, premièrement, c'est la saveur culturelle russe que tu vois tout le long. Tu sais, puis deuxièmement, en fait, c'est que c'est la peur, tu sais, du espèce de genre de machine bureaucratique, la peur d'être effacée, puis tu sais, c'est quelque chose qui naît vraiment de l'histoire de la Russie, tu sais. Puis tu sais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant
Mais ça
comme
fait
truc.
vraiment
Ouais.
URSS, tu sais, genre bureaucratie semi-communiste, là,
Sauf,
où tout le
c'est ça.
monde
Sauf
peut.
qu'adapté à nos jours, parce que tu sais, il disparaît des réseaux sociaux, il disparaît des photos, tu sais, c'est. Puis l'affaire aussi, c'est que en lisant un peu des trucs qui sur la Russie en général, sur des écrivains, pis tu sais, comme la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment déconnectée par rapport à l'histoire de l'URSS parce qu'ils essaient de plus parler de ça, tu sais. Fait que l'affaire, c'est que. Cette peur-là, tu sais, de la bureaucratie russe, puis de soviétique, et de, tu sais, tu pouvais disparaître du jour au lendemain, on n'allait plus voir ta trace, même si les gens sont pas familiers avec cette histoire-là.
Ils ont cette peur viscérale en
Ouais, c'est
eux, là.
ça, parce que si tu veux pas, ça a marqué les comportements, tu sais. Puis tu le vois vraiment, tu sais, c'est vraiment un truc technologique, puis tu sais, y a pas, on voit pas vraiment d'allusion à l'URSS, ça part dans un des mondes parallèles, mais. Tu sais, ça transpire ça, tu sais. C'est
Ouais,
vraiment.
absolument,
J'ai
absolument.
trouvé ça super intéressant comme truc. Je me dis, tu sais, ça, c'est un trait culturel qui pourrait développer plus dans des films, tu sais.
Oui, exact, exact. Mais au final, ça m'a quand même montré que je suis pas un fervent défenseur d'Hollywood, mais je dois leur redonner qu'est-ce qu'ils font bien. Et la Russie n'est pas encore là. J'avais vu il y a quelques années aussi le film The Guardian, qui était l'espèce d'Avenger russe. Et tu sais, ils ont encore du chemin à faire, là. T'sais,
Sauf qu'en
pourtant.
même temps, moi, je me dis, au lieu d'essayer de copier les Américains, ils devraient miser sur leur
Ben non, mais en plus, c'est que
saveur, tu
la
sais.
Russie a une culture cinématographique,
oui.
En fait, a eu une culture cinématographique qui était très forte à une certaine époque.
Mais tu sais, même aussi, des écrivains...
Non, ils ont tout le bagage,
ouais,
pour avoir une culture forte et pas faire la même chose que les Américains.
Ouais.
Juste que les Américains, on dirait, ils ont tellement été bons avec Hollywood et tout ça, qu'ils ont... Toutes les grandes puissances essayent un peu de les imiter.
Ben, c'est l'impérialisme culturel, la diffusion de leurs valeurs. Puis le monde. Ben, tu sais, on veut pas. La mondialisation, là, c'est répandre le capitalisme, là.
Oui, je comprends que ça affecte ça, mais après, tu regardes, mettons, des traditions comme, mettons, la France, que leurs films sont pas tant affectés par ça, tu sais.
Ben,
puis...
Ça, je suis plus ou moins d'accord. On pourrait en élaborer plus, mais tu sais, t'as vu, il y avait plein. Je pense que c'est l'année passée, justement, Fantasia, il y avait des films français, c'était tous des trucs un peu de gangsters, genre, tu sais, qui veulent se tirer, des affaires.
Ouais, mais
de
les Français ont toujours fait ça aussi, quand même, des films d'action, mais pas une sorte de l'action à l'américaine. Puis je suis sûr que si on les avait regardés, peut-être qu'il y en a quand même, là, qui viennent là-dedans, là. Mais après ça reste qu'ils ont leur propre savoir culturel, et je. À part dans la thématique. Je ne l'ai pas senti dans le film A Rough Draft. La thématique était très culturellement inspirée, justement, de la Russie, de l'URSS, tout ça. Puis d'ailleurs, ça vient d'un livre qui est russe. Mais au niveau du traitement du film,
ouais,
c'était très standard, mais en fait, en dessous. Tu sais, c'était comme un film qui va directement en cassette. Là.
Ouais.
En cassette, en DVD. Ben, en DVD, sur Netflix, en tout cas.
Ouais.
Un film qui sort direct, qui va pas en salle, tu sais. Il y avait comme ce petit côté un peu cheap, là,
ouais,
qui revenait tout le long du film. Fait que pour moi, c'était quand même bon, mais c'est un 3, disons.
Ouais, j'avoue. Pas de problème là-dessus.
Fait que toi aussi, c'est un 3 pour toi?
Ouais. Mais j'avais vraiment aimé la thématique.
Oh non, mais le
parce que tu sais, des fois, quand
l'idée...
tu fais des critiques là, sur des sites, là, tu peux mettre, mettons, musique à part, film,
ouais,
à part, personnage, puis en tout cas, ben tu sais, oui, le côté tout technique du film, tu sais, je mettrais vraiment une note de marde, mais l'histoire, puis...
Mais en fait, le livre, tu sais, le,
ouais,
livre doit être bon,
ouais,
magnifique, j'attends le remake américain avec impatience. C'est clair, en fait, que ça va arriver. Là. Je peux pas croire qu'ils vont pas le faire. Là.
Bon, au moins, vous savez que l'histoire est bonne. Donc, on enchaîne avec... Qu'est-ce que t'as envie?
Bon, on peut aller avec ça.
Five Finger?
Five Finger for Marseille.
Ouais.
Un film sud-africain.
Ouais.
Un western sud-africain, mais qui se passe à notre époque, dans le fond.
Mm-hmm. Ben, ça commence les années 70.
Ouais, mais ça, c'est genre la série de flashbacks un peu,
ouais,
là, mais la majeure partie du film se passe à notre époque, mais bien entendu en Afrique, donc c'est pas,
ouais,
exactement la réalité à laquelle on est habitué. Ça faisait quand même quelques fois qu'on allait voir des films sud-africains.
Ah ouais?
Ben, on en avait vu deux. Ah, peut-être toi, t'étais pas là, mais je pense que moi, ça fait 2 années de suite que je vais en voir. Et celui-là était littéralement une coche au-dessus des autres. Tu sais, il y avait une réalisation qui était soignée, il y avait quand même... Tu sais, c'était pas juste un genre de délire un peu, là, tu sais, il y avait un vrai film.
Mais c'était pas sud-africain, le truc du Père Noël qu'on avait vu.
Non?
Non. Mais oui, ok, c'est bon, peu importe. Mais c'était un film africain vraiment... c'est vrai que la réalisation était à un autre niveau. Donc, moi, ce que j'ai préféré du film, c'est les paysages, en fait. J'ai trouvé que, premièrement, les décors aussi, leurs habillements, tout, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment, vraiment bien fait. Parce que on est allé voir, comme on en a parlé, en fait, dans l'épisode précédent, Buffalo Boys, qui était un western, mais de Nouvelle-Zélande, me semble? Non, pas Nouvelle-Zélande.
Non, Indonésie.
Indonésie, ouais. Et, tu sais, je trouvais qu'il copiait trop, tu sais, c'était vraiment comme, des bottes, chapeau de cowboy, tout ça, mais... mal faite, tandis que là-dedans, c'est super bien intégré parce que, tu sais, ils ont vraiment leur style. Il y en a un qui a une cagoule avec genre des trucs de laine avec des poils, une genre de couverte vraiment pas rapport sur lui.
Ouais, c'est western, mais c'est pas nécessairement western de cowboy comme on le connaît.
Non,
là,
c'est ça.
Pas, ils ont pas des bottes de cowboy pis des guns à, ben, ils ont des guns à la ceinture, mais tu sais, ça a quand même une certaine originalité. Là.
Exact. Pis tu sais, même en fait, je pense que les armes, tu sais, viennent de Russie ou du Kazakhstan ou genre, je sais pas trop. Tu sais, c'est pas un truc avec le. Typique américain, là. Mais non, les décors, en fait, sont vraiment cool. J'étais en train de me demander, même s'ils n'utilisaient peut-être pas la lumière naturelle aussi à certains points.
Oui, ben ça sent comme ça, parce,
ouais,
que c'est comme, t'as pas l'impression qu'il y a vraiment d'éclairage là-dedans.
Non,
là, ça a l'air d'être un traitement qui est très rough, là, tu sais.
Naturel,
qui...
genre.
Ouais, mais tu sais, c'est comme si ça là, c'est texturé en fait, là.
Puis en fait, ça a l'air d'une région pas nécessairement très chaude non plus. Tu sais, les gens sont souvent en manteau, là. Fait que tu sais, je sais plus, tu sais, la nuit, on dirait
On
que
dirait qu'il fait
ça tombe
froid,
moins,
là.
c'est ça.
Ouais. Mais ça se passe dans le
Puis
désert, tu sais,
ouais,
sauf que.
puis en fait, c'est comme un genre de village où, tu sais, au bout d'une ligne de chemin de fer qui, à une certaine époque, était un peu plus florissant, qui a été mis de côté. C'est, tu sais, c'est un peu genre ville fantôme à quelque part, là. Et en fait, c'est cinq amis, quand ils sont jeunes, qui subissent un peu les contre-coups, tu sais, de la colonisation. Et ils font un peu un pacte, tu sais, à protéger un peu leur village. Et ça chie, en fait. Et un des personnages, le personnage principal, en fait, il part quand même vraiment très jeune de son village et il revient des années plus tard. Et non,
30 ans, ben genre 20 ans
30 ans
plus
plus
tard, peut-être
tard.
plus, là.
Puis là, tu sais, vraiment aussi de voir comment est-ce que les gens y ont évolué, comment la situation est rendue, la corruption, tout ça, le village a grossi, les choses ont changé. Mais il y a toujours ce même genre de petite rengaine aussi, là, puis les gens, ils veulent régler leur compte. C'est un film western aussi dans le sens que c'est long, c'est lent.
Ouais, il se passe pas beaucoup de choses, les gens parlent pas tant que ça,
Ouais, c'est vrai.
ils s'observent plus.
Ouais.
Ça a vraiment le feeling d'un western, là. Tu sens un western même si c'est pas les codes classiques, là.
Mais tu vois, ce code-là, ils l'ont vraiment bien fait, je trouvais.
Oui,
C'est...
absolument, absolument.
Fait que... Non, c'est... Puis les acteurs étaient bons.
Oui, pour des acteurs qui sont sûrement pas si expérimentés que ça, j'y croyais tout le long, là, en fait. Il y avait aucun moment où j'y croyais pas. Non, absolument.
Mais en fait, ton père, il a pas tant aimé ça. Nous, on a tout aimé ça sauf lui. Pourquoi il aimait pas ça, donc?
Ben, tu vois, après réflexion, il aimait plus ça,
Ok.
là. Sauf que, tu sais, je comprenais un peu les points dans le sens que, au final, ce film-là n'est pas très original, n'est pas très surprenant. Il y a pas. Les paysages sont magnifiques, mais la plupart des plans sont pas nécessairement travaillés. T'sais. Il y a comme oui, il y a des moments qui le sont, mais c'est quand même un film assez simple malgré
Ouais,
tout.
ok.
T'sais, comme surtout que ce film-là, il était vendu par la bande-annonce encore une fois comme le meilleur western des 10 dernières années.
Ouais.
T'sais, lui, il comparait ça bien entendu à du Tarantino. C'est dur d'être comparé à du
Ouais.
Tarantino, mais c'est vrai qu'on est loin de The Hateful Eight. T'sais, comme
Ouais.
on n'est pas là. Même si c'était très bon puis c'était intéressant, je pense que le côté le plus intéressant, c'était vraiment une espèce de. Ça traitait de la situation, dans le fond, post-coloniale de cette région du monde, là,
Ouais,
t'sais.
puis tu sais, la réalité aussi des Noirs en Afrique du Sud, tu sais, la situation est vraiment différente que dans d'autres
Oui,
pays.
parce qu'il y
Fait
a énormément de blancs dans le fond en
ouais, puis il y a
Afrique
eu
du Sud.
l'apartheid, puis tout ça. Donc, en tout cas, c'était vraiment un bon film. J'ai aimé ça, j'ai aimé les silences, j'ai aimé la longueur, les paysages, les acteurs. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus de surprise, tu sais, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça... Je le recommanderais.
Oui, non, mais pour tous les fans de western ou de films justement de régions du monde qu'on voit pas souvent, je pense que c'était assez intéressant. Ça reste quand même qu'il y a, t'sais, quelques petites critiques à faire, surtout au niveau du scénario, selon moi, t'sais, qui est un peu faible. Mais t'sais, c'est compliqué à suivre pour rien, mais dans le fond.
Qu'est-ce qui va être compliqué?
Mais non, mais t'sais, c'est comme des groupes, il y a plein de groupes, là, tu développes pas vraiment les situations, ça se passe. Même si c'est un film lent, les choses se passent vite.
Oh, j'ai pas
Je
trouvé
trouvais
ça, moi.
que tu sais, tu passais rapidement d'une chose à l'autre, puis dans le fond les gens prenaient des décisions un peu bizarres, tu sais, comme il dit ah ben j'aurais besoin de mes amis, puis le lendemain matin ils arrivent, tu sais, ils sont en plein cœur du désert, mais tu sais, le gars il part, il les trouve, il les ramène. Tu sais, il y a quelques raccourcis de scénario que je trouve qui m'ont un peu dérangé. Encore une fois aussi, je trouvais le rôle de la fille était vraiment bafoué,
Secondaire,
genre.
ouais.
Tu sais, un peu à la façon de Buffalo Boy, là, tu sais, même si, tu sais, la fille est dans le groupe, mais ils
Ouais.
sont 6 dans le groupe avec la fille, mais
Mais il
c'est les
l'appelle.
Five Finger from
Ouais. Ça, c'est...
Marseille.
J'avoue, c'est
Puis, tu sais,
poche.
30 ans plus tard, tu te dis, OK, la fille est endurcie, tu sais, tout ça. Non, tu sais, elle est quand même assez soumise, elle est là. Puis, je comprends que culturellement, ça doit être une vérité,
Ouais.
mais après ça, je pense que, tu sais, on peut peut-être raconter les histoires aussi en mettant en valeur, tu sais, le plus de personnes possible, là. Puis encore là, tu sais, comme des personnages qui sont développés, mais qui sont pas utilisés. Et ça, c'est pas le genre de choses que j'apprécie dans un film. Tu sais, ils vont développer un personnage juste pour le tuer, ou développer un personnage pour pas nous dire qu'est-ce qui arrive avec lui. Tu sais, on va voir, dans le fond, une famille de Chinois, en fait, qui sont là en Afrique du
Ouais.
Sud. Tu sais, puis eux, dans le fond, sûrement qu'ils étaient là depuis quelques générations, même pas. Ils voulaient faire du commerce là-bas, mais tu sais, ils se sont retrouvés dans le pire spot au monde, tu sais. Puis, dans le fond, c'est des personnages qui sont bâtis, mais à peine. Puis t'es comme, mais est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose dans le film, alors que moi, je veux explorer les personnages qu'on a suivis depuis le début, qui sont intéressants.
Ouais, j'avoue.
Tu sais, je trouve que c'était comme, ça se perdait. Il manquait juste un petit peu d'harmonie, là. Tu sais, juste quelqu'un qui vient puis qui dit, OK, là, il y a trop d'affaires là-dedans, on va juste recadrer ça un peu, puis rendre ça serré, là, que ça se tienne bien, puis que ça soit, tu sais, bien rodé.
Fait que c'est quoi ta note?
Ben là, en fait, je me rappelle plus quelle note exactement j'avais donnée pour Buffalo Boys. Je pense que c'était comme 3,5, mais cette note-là me semble un peu haute à ce jour. Fait que je vais plus y aller avec un 2,5 pour Buffalo Boy. Et ce film-là, j'ai donné la note de 4 sur mon petit papier, mais réellement, c'est plus un genre de 3,75, 3,8 pour moi. Tu sais, c'est pas tout à fait un 4, mais presque.
OK.
Et toi?
3,5.
3,5. OK. Bon, ça fit dans les mêmes eaux. On a les mêmes goûts, hein? On est plate.
On est allé voir Wendigo.
Oh,
Oui.
Wendigo!
Habituellement, on va pas voir des vieux films, mais là, on est allé voir 1994 de Robert Morin. Et en fait, c'était ma première expérience de film restauré par la compagnie Éléphant, qui est chapeautée par Québécois. Et ma foi, j'étais extrêmement surprise de la qualité des images.
Oh, la restauration était tout simplement folle, en fait. Fait que beau travail à Éléphant, parce
Ouais,
que
c'est fou.
c'est... On aurait pu croire, en fait, que c'était un film qui était fait en 2018, là.
Exact. Fait que, tu sais, c'est HD, là. Puis, en fait, juste pour faire une petite parenthèse sur la compagnie, je savais pas trop, mais en fait, eux, leur mission, c'est un peu comme de restaurer des choses qui sont un peu plus de patrimoine culturel.
Oui.
Puis, ils ont ouvert aussi une branche au Mexique. Puis, ils vont faire 50 films l'année prochaine, comme du terroir mexicain, si on veut, là. Fait que ça,
Puis ils l'ont fait aux
je
États-Unis aussi, je
pense.
pense, ou en Angleterre,
Non,
mais
je
au
pense que c'est
Canada anglais.
Canada anglais, ouais.
OK.
Fait qu'en tout cas, c'est super intéressant comme mission. Et donc, le film, c'est Robert Morin. Il n'est jamais sorti au cinéma. Il était dur à trouver. Il est allé directement en cassette parce que, en fait, c'était un sujet un peu trop sensible à l'époque et ça l'est encore beaucoup d'actualité. Ça parle en fait de la condition des Autochtones. Et le film, vu qu'il est sorti en 94, c'était juste après la crise d'Oka et un peu dans les mêmes eaux que qu'est-ce qui se passait à Kanawake.
Ouais,
Donc,
donc c'est pas nécessairement des sujets qui étaient tout
non.
amenés au cinéma à ce moment-là, tu sais.
Exact.
Même si c'est quand même
Et
un film qui se veut assez neutre dans sa position, en
ouais.
fait, là. C'est d'ailleurs, quand il nous a été présenté, ça dit il pose plus de questions qu'il donne de réponses. Puis c'est un peu ce qu'on s'attend d'un
Ouais.
film comme ça, là.
Fait que, en fait, c'était vraiment bon. En fait, aussi, c'était drôle parce que c'est plein d'acteurs québécois, tu sais, que maintenant, on voit à télé qui sont super vieux, là, tu sais. Fait que c'était drôle de les voir jeunes. Mais moi, j'ai adoré ça parce que les réflexions qui t'amènent graduellement au fil du film, tu sais, c'est un peu pour décortiquer les stéréotypes, puis aussi de comprendre la complexité de... Un stéréotype aussi, c'est quel rôle que ça peut avoir sur l'influence de ta culture, tu sais. Comme, par exemple, si on me dit toute ma vie, tu sais, je suis une frog, pis ci, pis ça, pis genre, je m'identifie à un stéréotype, tu sais, du Canadien français qui mange sa pea soup, mais tu sais, à un moment donné, tu l'intériorises, tu sais, ce stéréotype-là. Et en tout cas, je trouve qu'ils parlent, à certains moments, ils m'ont parlé de ça, puis j'ai trouvé ça super intéressant comme réflexion. C'est quelque chose que j'avais jamais pensé, tu sais.
Non, absolument. En gros, ben là, on va peut-être juste parler un peu de l'histoire pour que les gens y soient au courant un peu de qu'est-ce qui se passe dans le film. C'est après justement une espèce de crise comme il y a eu à Oka, le gouverneur, en fait, il y a un groupe d'Amérindiens qui décident de déclarer son indépendance, en fait, dans le Grand Nord québécois. Fait qu'ils pognent un territoire puis ils disent, ben maintenant, ça c'est à nous, puis allez chier, en fait, on est indépendant. Donc, dans le fond, le gouvernement fédéral,
Les
provincial, les
deux.
deux, envoient des représentants. En fait, il y en a un qui c'est le ministre de la condition
OK, ouais.
amérindienne, puis il y en a un autre que c'est le ministre des Affaires intérieures. Et il y a aussi des journalistes qui se greffent là-dedans, qui sont les personnages principaux, si on veut. Et ils vont, leur but, en fait, c'est d'aller rencontrer ce nouveau pays, si on veut, pour aller essayer, ben, chacun a un peu sa mission. Tu sais, les journalistes, le but, c'est de documenter. Les diplomates, les ministres, leur but, c'est sûrement de les convaincre de revenir dans le Canada et dans le Québec pour qu'on évite un peu une catastrophe. Ça a un peu un feeling d'Apocalypse Now. Parce qu'en réalité, la moitié du film, là, c'est le moment où ils vont rencontrer les Amérindiens. Fait que, mm-hmm. On a le concept de ils sont sur une petite rivière dans le nord du Québec, sur un bateau un peu bizarre, puis ils vont se rendre là-bas. Ouais.
Ben, c'est, ils remontent la rivière Windigo, en fait, puis Windigo, c'est un...
Un esprit amérindien.
Ben, c'est comme le genre de purgatoire amérindien, si on veut, parce qu'ils disent que quand tu meurs, ben, tu sais, tu vas naviguer toute ta vie, genre, sur Windigo. C'est comme un peu les enfers pour eux autres, tu sais.
Ouais, mais Windigo, c'est aussi une espèce de... pas de démon, là, mais de, ouais, de créature maléfique dans la mythologie amérindienne. Ouais,
c'est ça. Fait qu'il fait en sorte que c'est comme si tu... C'est comme une boucle à l'infini, tu sais, tu pagaies, puis tu peux plus jamais t'en sortir. Fait que c'est un peu le genre de, tu sais, Lucifer en enfer qui va te punir à vitam aeternam dans ta boucle, tu sais. Mais en fait, aussi, ce qui est cool du film, c'est que vu que c'est des journalistes qui sont les personnages principaux, on voit vraiment ça un peu à la saveur documentaire aussi. Fait que, tu sais, mettons, la moitié du film, c'est à travers les yeux d'une caméra, tu sais. Fait que t'as la réalité super HD et tout, pis t'as comme la vision caméra, les scènes qu'ils choisissent de faire, les plans qu'ils choisissent, les entrevues qu'ils font avec les personnages. Fait que c'est cool aussi comme dynamique.
Ouais, en fait, pis la bonne partie des autres plans, donc ceux qui sont pas filmés à travers la caméra du caméraman, c'est une caméra subjective qui est à la place de la tête du journaliste, en fait. Mm-hmm. Là. Donc ça, c'est vraiment... intéressant. Le sujet est vraiment bon, l'histoire est excellente et la réalisation, elle est vraiment géniale. Là. C'est là que, tu sais, je le savais déjà, mais en voyant ça, ça m'a encore fait réaliser à quel point Robert Morin, c'est un génie du cinéma québécois, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est à étudier absolument. C'est quelqu'un qu'on va étudier dans les 70 prochaines années au Québec. En fait, c'est absolument quelqu'un d'exceptionnel pour le cinéma. Là.
Ouais.
Ses sujets sont vraiment uniques et son traitement est absolument intéressant. Puis il va toujours intégrer, pas toujours, mais souvent, la caméra comme un personnage dans son film. Donc moi, j'étais vraiment en fait sous le charme de ce film-là. J'ai adoré ça. Là. J'étais vraiment content d'aller le voir.
Ouais, puis en fait, c'est tellement d'actualité encore, tu sais, avec toute la question amérindienne, puis tu sais, l'autodétermination des peuples, puis aussi comment aussi on peut, à un certain point, on est vraiment dans une impasse parce que ils se sont tellement fait détruire, tu sais, par les générations de souffrance, puis de nos cultures qui se sont comme mises sur la leur, puis c'est même plus par où commencer, tu sais, même pas. T'sais, c'est quoi qu'il faut faire, t'sais, c'est quoi qui est éthique, c'est comment qu'il faut s'organiser, c'est pas par où commencer. Puis tu sais, en plus, avec tous les enjeux, t'sais, sur l'environnement, t'sais, qui rentrent en ligne de compte, mais c'est comme une autre critique aussi envers eux à un certain point, parce que t'sais, c'est des gens qui veulent vivre en contact avec la nature, mais qui ont pas, t'sais, ils veulent vivre de chasse, ils veulent, t'sais, comme c'est plus non plus des valeurs qui fit nécessairement avec maintenant. Fait qu'on est plus enclin à les écouter, mais on va encore les juger avec des nouvelles, une nouvelle excuse, t'sais.
Oh, non, c'est clair. Ben, en fait, ça m'a juste fait penser quand tu parlais de ça d'une des phrases qui est vraiment intéressante dans le film, c'est quand dans le fond, le chef un peu de ce pays amérindien-là va dire, je m'en rappelle plus les mots exacts, mais t'sais, il dit, vous pensez qu'on est des espèces de chamans qui ont les secrets genre de comment sauver la planète pis tout ça, mais tu sais, c'est pas ça non plus, dans le sens que tu sais, même quand on veut pas les juger, on va quand même les stéréotyper pis les mettre dans des cases,
ouais,
dans lesquelles dans le fond au final c'est des humains là.
C'est ça.
Oui, ok, leur culture a été complètement saccagée pis c'est atroce, mais au final ça reste quand même des humains, tu sais. Ouais. Donc ils ont pas tous les secrets de l'humanité, pis soit qu'on va les démoniser ou les encenser comme étant une, ouais, réponse, mais tu sais, c'est beaucoup de pression là pour un peuple qui essaye de survivre, c'est de dire, ben là, dans le fond, c'est vrai, vous avez les secrets de la nature, aidez-nous à sauver la planète. Tu sais, c'est comme, c'est pas, ouais, ça, c'est là, tu sais.
C'est comme tout le temps, en fait, on n'est pas capable de les voir tels qu'ils sont, puis en fait, ça fait en sorte qu'eux non plus, ils n'arrivent plus à se voir tels qu'ils sont eux-mêmes, tu sais. Parce qu'ils ont le poids de leur civilisation sur leurs épaules, mais en même temps, ils se disent à quoi bon, tu sais, continuer la lutte, mais tu sais, c'est comme ils sont vraiment déchirés, tu sais, un peu à un certain point. Puis en tout cas, j'ai trouvé que la façon que le film nous apportait les questionnements, puis c'était vraiment bien. Moi, ça me j'ai adoré de me faire guider là-dedans, tu sais.
En fait, j'ai rarement vu une œuvre en fait sur les autochtones qui était aussi bien faite, puis qui amenait autant de questions. Malheureusement, ça n'amène pas de réponse, puis je sais même pas s'il y en a eu une réponse, là. Je pense qu'il faut y réfléchir, puis c'est un sujet, après avoir vu ce film-là, qui m'intéresse d'autant plus, puis que je veux savoir les gens qui ont vraiment réfléchi là-dessus, c'est quoi les vraies solutions, parce que je les voyais pas, puis j'essaie de penser comment est-ce que ça doit être fait. Puis ça m'a vraiment amené beaucoup de réflexions, là.
Donc, c'est sûr qu'il n'est jamais sorti au cinéma, puis il n'est plus à la Cinémathèque, nous, on avait vu dans ce cadre-là, mais je crois qu'il est disponible, en fait, dans des bibliothèques du CAM ou
sûrement CGEP, à la BANQ, même, il doit être là, si c'est l'éléphant, là.
Ouais, exact, fait qu'il a pu être ressorti en DVD lors de sa remasterisation.
Windigo de Robert Morin, 1994, c'est quoi ta note, Erika?
5/5.
Moi aussi, un solide 5, en fait. Rien à dire sur ce film-là, je le regarderais plusieurs fois. Puis à un certain point, j'étais comme, c'est trop court, tu sais. Ouais. C'est comme, tu veux que ça continue, tu veux savoir la suite. Mais la suite, c'est à nous de l'écrire.
Mais en fait, j'aurais demandé peut-être aussi un truc, c'est par rapport à la grenouille qui est comme, qui figure sur le bateau. Il y a tellement de plans avec cette petite grenouille-là dedans, j'aimerais ça savoir, tu sais, c'est quoi l'histoire en arrière de ça?
Ah non, mais il y a l'air d'avoir plein de références cachées, puis comme tous les films de Robert Morin, c'est il y a beaucoup plus à approfondir dedans que seulement qu'est-ce qu'on a vu après un visionnement, là.
Ouais.
Bon, ben on arrive maintenant au dernier film qu'on a vu à Fantasia qu'on va parler. Ouh! Et c'est le dernier film qu'on a vu et c'est le dernier film dont on va vous parler.
Ouais. Big Brother.
Big Brother. Bon, malheureusement, on n'a pas gardé le meilleur pour la fin, mais bon, pas le pire non plus.
Ben, en fait, c'était un des films de clôture. Un gros film chinois, quand même, gros budget.
Hong Kong, cantonais. Fais attention, il y a peut-être des gens qui vont briser des fenêtres.
Ouais, en fait, la salle était pleine de cantonais à Montréal, dont nos amis, notre ami et sa famille. Et c'était... l'histoire, c'est un ancien élève d'une école qui est allé étudier à l'étranger, qui est devenu un genre de supra-héros humain bon dans tout et qui décide de revenir enseigner à son ancienne école quand il était jeune, qui est une école super délabrée, potentiellement sur le bord de se faire déconstruire. Exact. Et avec des jeunes problématiques qui réussissent pas vraiment les concours d'entrée à l'université, tout ça. Et donc, il décide, tu sais, d'aller à cette école-là pour s'occuper des jeunes qui sont là, puis il spot justement les plus problématiques, puis il les prend un peu sous son aile.
Ouais, exactement. Donc, c'est l'histoire classique, là, de le prof cool qui revient à l'école, puis qui va régler les problèmes des jeunes. Et leur donner peut-être le plaisir d'apprendre, tu sais, leur donner la valeur d'une belle éducation. C'est un film aussi qui traite de plein de problématiques. Là, je sais pas si j'oserais dire chinoise, mais en tout cas de Hong Kong.
Ouais.
Tu sais, qui est comme les angoisses de performance, les familles dysfonctionnelles, les parents absents, l'alcoolisme, le suicide chez les jeunes.
Mais c'est ça, c'est comme tous des thèmes qui sont un peu dans toutes les sociétés, mais que mais avec les aspects vraiment plus précis à Hong Kong, tu sais.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'était quand même intéressant comme film. Par contre, il faut dire tout de suite, c'est un film très familial.
Ouais, c'est un bonbon, là, ça, c'est positif.
C'est un film là, qui s'adresse... Tu sais, c'est un... Le réalisateur, c'est Kan Wai Kam. C'est le gars, en fait, qui a fait Ip Man. Et d'ailleurs, l'acteur, c'est Donnie Yen, qui est le gars qui joue Ip Man, qui est un des très gros acteurs de films d'action à Hong Kong. Donc, on s'attendait vraiment à un film, tu sais, un gros film de Kung Fu, là, avec beaucoup de combats, beaucoup d'action. C'était un peu dans cette optique-là qu'on y allait.
C'est ça que la bande-annonce nous montre, en tout cas.
C'est ça que la bande-annonce nous montre. On l'a même regardé après le film pour être sûr qu'on n'avait pas halluciné ça, mais... C'est pas un gros film d'action, hein. C'est un film plus familial. Il y a des scènes de combat, il y a des scènes beaucoup plus sentimentales, des scènes plus de discussion avec les enfants, régler les problèmes, tout ça. Moi, ça a été vraiment comme ma déception numéro un, c'est le fait que c'était vraiment pas ce à quoi on s'attendait. Et Après ça aussi, je trouvais que même s'il allait jouer sur des thématiques qui étaient plus profondes et tout ça, comme c'est un film familial, hein, c'est des trucs qui se règlent en claquant des doigts.
Mais c'est ça, il essayait d'aborder des thématiques profondes, mais d'une façon vraiment superficielle. Fait que ça tue un peu le
concept du film. Puis tu sais, c'est comme quand tu as un père alcoolique depuis 20 ans, puis que le père il a toujours été une merde. Ben, ce gars-là, il se pointe, il parle 5 minutes, puis le père rejoint les AA, puis il veut se repentir. Puis ça, fait que, c'est comme tout ce qui est vraiment dur à régler dans une vie, puis qui est vraiment dramatique. Mais dans ce film-là, en fait, on va le régler facilement.
C'est pas vraiment réaliste.
Non, c'est ça. Puis je trouvais que. Je reviens un peu au. Qu'est-ce qu'on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Et là, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est qu'est-ce que je ressens. C'est que, bon, Hong Kong. C'est quand même gros, tout ça. Ça, c'est une super production. Tu sais, c'est un gros film à gros déploiement. Il y a plein d'affaires dans le film, plein de scènes d'action, même si c'est pas vraiment des gros combats. Et je trouvais que c'était vraiment fait à l'américaine. Encore une fois, j'avais ce sentiment-là. En fait, ce film-là, probablement, vous l'avez tous déjà vu plein de fois. En fait, c'est tous les films de policier qui devient prof à l'école ou de gars badass qui devient prof à l'école. On l'a vu plein de fois, ce film-là. Puis ce film-là, il est pas différent des autres là-dedans. Mais je trouvais encore une fois que ils font moins bien. Donc, pourquoi le faire à l'américaine quand tu peux pas aussi bien le faire qu'eux? Parce que c'est pas ce que tu dois faire.
Ouais, ben c'est comme t'as dit justement, en fait, c'est pourquoi le faire à l'américaine? Parce que, tu sais, il y a des films comme ça, mettons, tu sais, je pense à Monsieur Lazare, entre autres, où ils font pas à l'américaine, puis c'est super bon, tu sais, mais...
Mais tu sais, il y a aussi, c'est quoi, Madame C, Mademoiselle C?
Ouais,
qui est un peu, ben c'est sûr qu'il y a pas les combats pis ça, mais tu sais c'est un peu la même affaire mais faite à la française, donc tu sais t'as vraiment comme
non, c'est québécois, non?
Ah, c'est québécois, ok, ouais, excusez. Bon, en tout cas Mademoiselle C, mais c'est ça, tu sais t'as tout ce côté là, mais là-dedans tu, ça pourrait être un film américain à un certain point puis tu serais comme ok, c'est juste pas un bon film, tu sais.
Ouais, mais en tout cas en mettant qu'on coupe les bouts de quétaine, là, c'était quand même des super bons combats, ça j'avoue. Même s'il y avait comme, mettons, deux, trois scènes.
Ben, les combats étaient
impeccables.
Ah, impeccables, en fait. Puis, tu sais, c'est ça un peu qui me rend triste. Parce que quand tu regardes ça, tu te dis, le film, il aurait été magnifique si t'avais rajouté plein de combats dedans. Bon, on veut pas être juste des gens de combat, mais tu sais, on va à Fantasia voir un film de Kung Fu. On s'attend à ce qu'il y ait des combats dedans.
Mais c'est que surtout que ça donne juste envie d'écouter des films de Jackie Chan en sortant de là.
Oui, exactement. Exactement. Parce que, ben, c'est ça. Les scènes de combat, phénoménales. La réalisation, on voit que c'est un acteur qui a de l'expérience, que c'est un réalisateur qui a de l'expérience dans ce type de film-là. Après ça, pour ce qui est de l'histoire en tant que telle, c'est un peu bâclé. Puis pour ce qui est, moi, ce qui m'a vraiment tué dans le film, c'est les choix musicaux. Tu sais, il y a une toune de James Blunt, puis le gars il roule sur une moto dans une espèce de désert, puis il y a un aigle qui le suit. Puis il y a une espèce de course de go-kart entre un père puis sa fille, puis il y a du genre de pop qui joue, mais vraiment comme tu sais, ça fait très très jeune adolescent là, tu sais, puis ça c'est pas qu'est-ce qu'on s'attend de voir à Fantasia habituellement dans un gros film de clôture. Il y avait une file d'attente qui allait jusqu'au coin de la rue là, il y avait facilement 600 personnes, tu sais, la salle était remplie, tous les bancs étaient pleins là.
J'étais arrivée à 5h puis j'étais déjà sur le, tu sais, j'avais déjà tourné le coin là, j'étais dépassé.
Ouais, il y avait au moins déjà presque 100 personnes devant toi là, fait qu'on était là comme une heure et demie en avance, puis il y avait énormément de gens. Mais c'est ça, c'est pas un film nécessairement qui a livré la marchandise pour
mais
moi.
Mais c'était comme la grosse promo en fait d'Hong Kong, on a eu droit à un discours aussi
de
la fondation, c'était vraiment pas très intéressant, mais c'est pas grave.
Mais aussi, c'est de la
promo.
Non, pas de la promo, de la... j'ai un blanc de mots. De la propagande.
Ouais, la
c'était
propagande.
Pas de la promo, c'était de la propagande hongkongienne. Il y avait une fille qui était là, elle lisait son texte en anglais, elle avait de la misère à lire, mais...
Elle était comme, Hong Kong, vous trouvez de tout, Hong Kong.
Oui, c'est un partenariat culturel qui n'a pas de limite et nous pourrons faire un monde meilleur si nous continuons de faire des films qui édifient les gens et qui permettent de régler les problèmes durs. Donc, en tout cas, tu sais, c'était un peu exagéré, là.
Mais juste pour revenir à la musique, tu disais que les choix de musicaux étaient douteux, puis en sortant du film, on en avait parlé, tu disais, tu sais, il nous forçait les émotions à la gorge, en mettant de la musique super dramatique ou ces trucs-là, tu sais, fait que c'est ça aussi l'affaire, c'est que c'est comme à la va-vite un peu, tu sais, c'est comme s'il nous montrait, tu sais, des scènes super, mettons... je pense à la scène de guerre, là.
Ah, mais la scène de guerre est assez phénoménale dans le film, là.
En fait, c'est ça, je vais la raconter parce que c'était vraiment drôle et un peu gênant aussi à la fois. parce que il y avait
en fait le prof c'est un ancien combattant puis ça c'est un flashback ouais. Là, de quand il était à la guerre
puis là il en fait il est à la guerre en tant que genre soldat américain là puis ils sont clairement dans une zone du Moyen-Orient et on voit pas les ennemis puis là les Américains ils ont l'air du bord justement des pauvres familles syriennes genre qui sont tuées mais bon fait que là il dit genre a dit ah sauvez ma fille puis il est comme oui ok. Puis là, on le voit, genre, la femme s'en va, puis là, tu sais, tout le monde tire un peu partout, puis là, on voit...
Non, mais il y a des explosions partout, il y a des balles qui fusent de partout, tu sais, on se croirait vraiment dans un espèce de débarquement de Normandie, ouais, là. Mais tu sais, des guerres comme il n'y en a plus depuis je sais pas combien de temps, là.
Puis là, en fait, on voit un gros plan, genre, d'une petite fille qui est comme dans un petit peu dans de la terre battue, t'es toute sale. Puis en fait, c'est tellement cliché parce que ça fait parce qu'il a juste comme donné un coup sur quelque chose, puis c'est quasiment une boîte de carton qui revole. Puis là, après, on voit la petite fille qui attendait tout paisiblement. Et en fait, Simon, il est parti à cramper vraiment intense dans le cinéma. Mais là, on se rend... Puis là, tu sais, je ris un peu aussi. Puis là, d'un coup, on se rend compte que d'après, c'est juste des trucs full tristes. On voit plein de monde, genre, coupé en morceaux.
C'est pas une scène humoristique, là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, en fait, les gens qui étaient proches de nous, ils étaient gênés d'être à côté de toi. Ils nous en ont parlé en sortant du film, là. Le gars, il part à rire. Ah, ah, ah! Puis, crampé mes raides. Puis, là, genre, OK, c'est full malaisant, finalement.
Mais c'est qu'en fait, mettons, à Fantasia, là, on a été habitué à aller voir des films de... Il y a des films à Fantasia qui sont des films volontairement cheap.
Ouais.
Pas volontairement cheap, mais, tu sais, les gens vont le voir... Parce que c'est des films qui sont pas bien faits, qui sont drôles.
Mais qui jouent avec les codes. Tu sais, mettons, dans un film de peur, ils vont dire « Ah, je pense qu'on est mieux de se séparer, puis là, c'est tout le monde va partir à rire. »
Oui, sauf que je pense même qu'il y a des films qui sont présentés à Fantasia qui ne jouent pas sur les codes et qui sont foncièrement mauvais, mais que Fantasia amène justement pour que les gens puissent se marrer un peu de ça. Puis, de moins en moins, ils le font, justement, parce que de plus en plus, ils vont aller chercher des films soit vraiment à gros déploiement ou des films... qui jouent sur les codes, donc qui sont volontairement mauvais, mais pas nécessairement ceux qui sont... En fait, les seuls qu'on va voir comme ça, c'est, mettons, les vieux films de Kung Fu des années 70.
Ouais, ouais.
Mais moi, je voyais ce film-là comme un film soit volontairement mauvais ou soit qui a vraiment raté la marque, tu sais,
ouais.
Ultra quétaine et cheap. Fait que ce moment-là, je l'ai trouvé absolument drôle. Tu sais, c'est la pire scène de guerre que j'ai vue depuis des années. Puis là, tu vois des petits-enfants, tu sais, avec les yeux tout tristes, puis tu vois le soldat qui est déprimé, puis il y a du gros violon, puis là, c'est comme full dramatique, il y a des explosions derrière, des tanks qui passent, tu sais, puis... Non, mais c'était un bon... Moi, je m'attendais, c'est le genre de... Je me dis, la foule de Fantasia...
Elle aurait du rire, ouais.
Elle aurait du rire,
mais
là.
Mais c'était pas la foule habituelle de Fantasia, c'était plein de gens qui étaient là occasionnellement. Là,
ouais, c'était... ben, c'est ça, mais il manquait ça parce que, sérieusement, c'était un moment hilarant, là, tu sais, surtout, tu sais, personne parlait, c'était full grave, non, c'était vraiment drôle, tu sais.
Ma fille!
Non, mais parce qu'ils ont pas, c'est... Transmettre une émotion au cinéma pour des gens, à des gens comme nous, là, qui ont été exposés à des films depuis tellement longtemps, qui ont vu de tout, qui ont... C'est dur,
ouais, mais
c'est
parce
là, tu sais.
Ça... On vit notre américanité aussi, tu sais. On comprend les codes parce qu'on est dedans.
Oui, mais tu sais, on a été exposé à ça depuis toujours. Je comprends qu'après, tu sais, tu prends la façon dont les Américains, ils vont faire quelque chose d'extrêmement similaire à ça. Mais ils maîtrisent ce système-là. Fait que donc, moi, je dis que chaque culture a la chance, tu sais, de faire un film, de faire du cinéma. Mais, copiez pas les autres, là, t'sais. Faites-le à votre façon, puis ça a bien plus de chances d'aller susciter une émotion, d'aller susciter quelque chose d'intéressant et pas de la moquerie, t'sais. Bon.
Donc, tu donnes combien?
Big Brother, pour moi, c'est autour de 1.5, malheureusement.
Okay. Moi, c'était 2 parce que je trouvais que les combats étaient vraiment cool.
Ouais, ben en fait, 1.5, c'est les combats, réellement, parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose que je... Il y avait 2-3 gags qui étaient pas pires, puis j'étais étonné, en fait, que c'était vraiment des bons gags, là. Comme le bout de la guerre, là, où on va... Non, pas ce bout-là, mais il y avait quelques
bons
gags.
Vrais bons gags.
Peut-être un 1.6, mettons, là, si je me sens généreux.
Bon, fait que c'était tout pour nous cette année, Fantasia.
Oui, ça termine notre série spéciale sur Fantasia de 2 épisodes. J'espère que vous avez apprécié ça. Cet épisode-là était un peu plus long, vous l'avez dit au début. Je pense pas nécessairement qu'on va prendre une pause officielle, mais on est en train de réfléchir à...
On va retravailler notre formule, en fait.
Donc, si vous écoutez ça, on sait qu'il n'y a pas énormément de gens qui nous écoutent, mais si vous écoutez ça, c'est que vous êtes relativement motivé. Ben, prenez le temps d'aller sur notre page Facebook, puis pas nécessairement de nous liker. Si vous voulez pas nous liker, c'est pas grave, mais faites juste nous écrire qu'est-ce que vous aimez dans qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez un petit épisode à chaque semaine ou un épisode plus gros à chaque mois, un épisode moyen à toutes les 2 semaines? Est-ce que on voulait qu'on traite des types de films ou de séries qu'on n'a pas parlé?
Puis aussi, tu sais, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aimez pas, mais tu sais, de manière constructive. Là,
pour, envoyez-nous chier, là, on est prêts. Erika est un peu fragile, fait que soyez tendre avec elle. Au pire, soyez méchant avec moi, mais tendre avec Erika. C'est une petite perle, elle est toute gentille.
Non, mais tu sais, c'est juste, ça sert à rien d'être méchant pour être méchant gratuitement, mais tu sais, on peut passer ses opinions en étant constructif.
Oui, non, mais là, c'est des gens qui nous écoutent, là. Oui. Ils sont tellement motivés, ils vont pas nous envoyer chier, là.
Mais je pensais que c'était peut-être des robots qui faisaient juste downloader.
Ah, ben ça, c'est possible aussi, mais sur les robots, il doit au moins en avoir 3-4 qui sont sympas, là.
Bon, en tout cas, ben écrivez-nous savoir qu'est-ce que vous voulez parce qu'on va personnaliser ça pour vous.
Oui, exact, parce que nous, on le fait vraiment pour le plaisir, là. Tu sais, on n'a pas nécessairement la prétention de devenir un gros média, là, qui va couvrir tout. Comme on le dit dans les premiers épisodes, on le fait parce qu'on regarde tellement de séries, tellement de films, puis c'est juste que nos amis, ils veulent plus nous en parler. Donc, on en parle avec vous.
Oui. Fait que c'est tout pour cette semaine.
Hey, ciao tout le monde.
Bye.